Nous avons chanté la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir pour lire ensemble un psaume que nous avons déjà eu l'occasion de lire ensemble cet été au mois de juillet pour ceux qui étaient là, c'est le psaume 32. Je vous invite à lire le psaume 32. Heureux. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Ces de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On l'hybride avec un frein, un mort dont on l'épare, afin qu'il ne s'approche pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit du cœur. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Au cours du mois de juillet, de l'été dernier, j'avais donné un message sur l'ensemble de ce psaume. Donc, ce n'est pas le commentaire de ce psaume que je vais faire ce matin. Pour ceux qui sont intéressés, pourront toujours l'entendre sur notre site internet. Ce matin, j'aimerais simplement revenir sur la promesse qui se trouve au verset 8 de notre psaume pour notre année, cette nouvelle année que le Seigneur met devant nous, pour cette nouvelle année ecclésiale. Cette promesse nous dit « Je t'instruirai, te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Au milieu de ce psaume, le Seigneur intervient. Au milieu de cette prière de David, de supplication, de pardon, le Seigneur intervient et apporte une réponse, à vrai dire apporte une promesse pour son serviteur. Une promesse qu'on peut résumer en deux mots, je t'instruirai et je te conseillerai. Le Seigneur promet à David de l'instruire pour lui montrer la voie à suivre, de le conseiller et d'avoir toujours le regard sur lui. Avoir le Seigneur comme guide, le Seigneur comme conseiller est l'un des privilèges qui nous est donné en la personne de Jésus-Christ, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous aussi, nous pouvons avancer, nous pouvons marcher à la lumière de la guidance de notre Dieu, à la lumière de son conseil. Au cours de cette nouvelle année, nous aurons besoin de l'instruction du Seigneur, tout comme de sa présence, pour avancer sur la voie qu'il a tracée devant nous, pour choisir les orientations qui sont sur son cœur pour nous, pour prendre les décisions qui concrétisent et manifestent sa bonne volonté pour nous. Cela, bien entendu, concerne les différents domaines de notre vie personnelle, mais aussi la vie de notre Église, la vie de notre communauté. Jusqu'ici, le Seigneur nous a accompagnés, nous venons de le dire, de le chanter. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a accompagnés, secourus, dirigés, et nous pouvons être reconnaissants pour tout ce chemin parcouru. Cette année est une année spéciale pour notre Église, une année où nous aurons besoin de l'instruction du Seigneur, de sa guidance, d'une manière toute particulière, notamment dans notre recherche de futurs serviteurs du Seigneur qui vont prendre la relève, notre relève à Thierry et à moi-même dès la rentrée prochaine. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a en réserve pour nous, pour cette nouvelle année. Certainement, beaucoup de bonnes choses, aussi bien pour notre vie personnelle que pour notre vie professionnelle. et notre vie communautaire. Parce que, simplement, le Seigneur nous aime. Et l'apôtre Paul nous dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui, par grâce, tout ?» Mais nous devons savoir que parfois, les bonnes choses que le Seigneur nous donne arrivent après ou au terme d'épreuves, de combats, de patience, de persévérance, et toujours dans la foi, la confiance dans le Seigneur. Pour cette nouvelle année, j'aimerais nous encourager, nous inviter à faire confiance en notre Seigneur. Faire confiance en notre Seigneur pour tout ce que nous allons vivre ensemble, individuellement, mais aussi communautairement. J'aimerais nous inviter à recevoir cette promesse que Dieu a faite à David, pour nous aussi, cette promesse où le Seigneur dit à chacun d'entre nous, tout comme il le dit à notre Église, à notre communauté, « Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Comment le Seigneur montre la voie à suivre? Comment il indique le chemin à prendre à ses enfants, à son peuple, à son Église? J'aimerais évoquer trois instruments principaux que le Seigneur a utilisés dans le passé et qu'il continue à utiliser encore aujourd'hui pour conduire son peuple, pour guider chacun d'entre nous dans ses projets de bonheur, dans cet avenir plein d'espérance qu'il a en réserve pour chacun, pour son peuple. Ces instruments connus que j'aimerais rappeler ce matin sont la parole de Dieu, nous l'avons évoqué de plusieurs manières déjà lors de notre culte, l'Esprit du Seigneur est terminé par la communauté des croyants. D'abord donc la parole de Dieu. L'expression « je t'instruirai » renvoie naturellement à la parole de Dieu, à la loi du Seigneur. Certes, l'instruction dans la Bible ne se limite pas uniquement à la parole de Dieu. L'instruction dans la Bible englobe d'autres éléments que le Seigneur utilise pour instruire son peuple, comme par exemple les choses de ce monde qui se font autour de nous et qui peuvent nous être très utiles. C'est ce que le sage dit au Proverbe 24, « Je suis passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici les orties poussées partout, les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé, d'un cœur attentif, j'ai vu, j'en ai tiré instruction. » Le sage ici regarde, examine ce qui se passe autour de lui pour tirer instruction. Certes, il est impossible d'examiner tout ce qui est autour de nous avec une grande attention, mais nous sommes invités, néanmoins, à être attentifs à ce qui se passe autour de nous pour tirer instruction et être au bénéfice de ce conseil du sage du Proverbe 24. Notre instruction, donc, ne se limite pas à la parole de Dieu, à la Bible uniquement, ici la Bible elle-même qui nous le dit. En même temps, l'instruction dans la Bible ne peut pas se faire sans la Bible. Elle est la lampe à nos pieds, une lumière à notre sentier, comme nous l'avons dit, nous l'avons chanté sur la base du psaume 119, verset 105. La Bible est cette parole inspirée de Dieu, utile pour nous encourager, pour réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Elle est digne de confiance, comme le déclare le psalmiste concernant les commandements de Dieu. Tes commandements sont dignes de confiance. La Bible est cette parole dont le fondement est solide. Elle subsiste à toujours, comme le dit le prophète Isaïe, l'herbe dissèche, la fleur flétrit. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ta parole est la vérité, nous dit le Seigneur Jésus dans sa prière. C'est elle qui pénètre au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de nos pensées, de nos sentiments, pour nous éclairer et nous conduire dans la vérité. Le Seigneur met entre nos mains cette parole, riche en enseignement, en instruction, en édification, pour marcher sur son chemin en toute assurance et en toute sécurité. David a été au bénéfice de cette parole. La Torah qu'il avait entre les mains, la Torah de Dieu, qu'il n'a cessé de louer tout au long de sa vie. Il lui consacre de nombreux psaumes, notamment le psaume 19, où il dit avec vraiment clarté, il dit avec force la clarté de la parole de Dieu et tous les nombreux bienfaits que ceux et celles qui l'écoutent et qui la reçoivent procurent. D'autres psaumes sont consacrés à la loi de Dieu, à commencer par le premier qui nous dit le bonheur de celui qui se met à la méditer et qui se met à la méditer. Mais il y a un psaume sur ce sujet qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le psaume 119, un psaume composé de 22 strophes dans chacune et composé de 8 versets et entièrement consacré à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Il y a 176 versets et dans chaque verset, la parole de Dieu est évoquée d'une manière ou d'une autre. Ce psaume 119 consacré à la parole de Dieu est impressionnant, non seulement par sa longueur, mais aussi par la profondeur de sa réflexion, par la richesse de l'instruction que Dieu met au bénéfice, met au bénéfice ceux et celles qui reçoivent et mettent en pratique sa parole. Dès le début, le Seigneur a parlé à l'être humain. Il n'a pas voulu le laisser sans instruction, sans parole. Cela a commencé dès la Genèse. Cela a commencé en Éden. Et s'est poursuivi tout au long de l'histoire. De la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur parle, instruit, guide son peuple. Par sa parole, le Seigneur fit connaître sa volonté. Pour ses enfants, il donne un cadre dans lequel il veut voir ses enfants, mais bien au-delà, l'être humain prospérer, se développer. Il indique clairement les choix à faire, les orientations à prendre pour vivre sous sa grâce, sous sa bénédiction. Par sa parole, le Seigneur continue à montrer la voie à suivre, le chemin à prendre, même si celui-ci peut être parfois étroit, souvent étroit, restreint. Resserré. Contrairement à David, aux nombreux hommes et femmes de foi dans la Bible, nous avons la totalité de cette parole de Dieu entre nos mains. Nous avons la parole que Dieu utilise pour instruire, pour donner un cadre sûr, pour permettre d'avancer et de grandir, de prospérer, être toujours sous sa bénédiction. La question qui se pose à nous ce matin, et de savoir combien de temps sommes-nous prêts au cours de cette nouvelle année à lui consacrer. Allons-nous prendre le temps nécessaire pour la lire, pour la méditer, pour l'étudier, pour la laisser nous instruire, nous conduire, nous orienter? Ou bien allons-nous simplement nous contenter de quelques minutes qui souvent, franchement, servent à calmer notre conscience qu'autre chose? La question qui se pose pour nous ce matin est de savoir comment allons-nous nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Allons-nous nous contenter d'une écoute légère, superficielle, ou bien allons-nous la laisser faire son chemin dans notre cœur, la laisser nous façonner, la laisser nous forger, la laisser orienter concrètement nos décisions et nos choix? Enfin, la question qui se pose à nous ce matin est de savoir si nous allons nous ouvrir entièrement à cette parole ou allons-nous lui résister, voire même la rejeter, dès qu'elle met le doigt sur quelque chose dont nous aimons, nous ne voulons pas nous séparer. Pour cette nouvelle année, je veux nous encourager tous à prendre le temps quantitatif et qualitatif pour nous mettre vraiment à l'écoute de la parole de Dieu et la laisser nous façonner. Je veux nous exhorter à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que cette parole de Dieu soit toujours au centre de notre vie, la base de notre instruction, la lumière de notre cheminement. Tout comme nous avons besoin de nous nourrir tous les jours, de nourrir notre corps, notre être aussi a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Notre être intérieur a besoin d'être fortifié, encouragé par cette parole qui nous vient de Dieu pour rester dans la joie de la communion avec notre Dieu. En plus de la parole de Dieu, le Seigneur nous a envoyé son Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. C'est l'expression « je t'instruirai » au psaume 32, verset 8, renvoie naturellement à la parole de Dieu. La deuxième partie de ce verset renvoie à la présence de notre Dieu. « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien que ça ne soit pas dit explicitement, nous pouvons discerner derrière cette deuxième partie de notre verset la promesse d'une douce présence de notre Dieu à nos côtés. D'un côté, le Seigneur nous laisse sa parole écrite, objective, entre les mains, et de l'autre côté, nous avons sa présence qui nous accompagne, qui veille sur nous. Il y a une réelle, me semble-t-il, une réelle tendresse que le Seigneur exprime par cette parole « J'aurai le regard sur toi ». Une manière de dire « Je veillerai sur toi », une manière de dire « Je ferai tout pour que tout concourt à notre bien, à ton bien, à votre bien », pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul. Le Seigneur nous assure de sa présence, une présence active, puisque en plus de veiller sur nous, il nous conseillera, nous orientera dans les choix, les décisions à prendre. C'est ainsi que le Seigneur nous assure de sa présence. C'est par l'Esprit Saint qu'il nous manifeste sa présence. Et ce, dès le début. Dès le début, l'Esprit de Dieu n'a cessé d'accompagner le peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a cessé d'accompagner son peuple. C'est ce que le Seigneur rappelle par le prophète Agée lorsqu'il dit « Quand vous êtes sortis d'Égypte, mon Esprit se tient au milieu de vous. » C'est dans Agée, chapitre 2, verset 5. La présence de l'Esprit de Dieu au sein du peuple n'a pas été passive, bien au contraire, elle a été active. Il a agi, il agit en faveur de son peuple et il le fait de plusieurs manières. Et il le fait sans se lasser. L'Esprit de Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert, le jour, dans une colonne de nuée pour lui montrer le chemin, la nuit, dans une colonne de feu pour l'éclairer, afin qu'il puisse marcher jour et nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple, précise le livre d'Exode au chapitre 13. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, il est question du Seigneur sans préciser que c'est l'Esprit de Dieu. Mais le prophète Isaïe indiquera clairement que c'est l'Esprit du Seigneur qui a conduit le peuple de Dieu dans le désert, il l'a amené vers le repos. C'est Isaïe 63, en faisant allusion à cet épisode à la sortie d'Égypte et la marche dans le désert. C'est aussi cela que Daniel va rappeler dans sa prière, après avoir rappelé exactement notre verset, Daniel au chapitre 9, dans sa prière, les versets 19 à 20, après avoir rappelé Exode 13, il dit clairement, « Tu leur as donné ton bon esprit et tu leur as accordé ton bon esprit. » En plus donc de la loi de Dieu, de la loi que Dieu a donnée à son peuple, le Seigneur lui a accordé aussi son Esprit Saint pour l'accompagner lors de cette traversée de désert. Les bienfaits de l'Esprit du Seigneur sont nombreux envers le peuple de Dieu. Il les guide, c'est lui qui guide les croyants pour qu'ils ne trébuchent pas. Psaume 143, c'est lui qui les aide à pratiquer la loi, la justice, le droit et la justice, le psaume 51. C'est lui qui qualifie ceux qui se mettent au service du peuple, même le service artisanal, Exode 31. Et il donne les capacités aux dirigeants pour conduire le peuple dans sa destinée. Après la venue de Jésus-Christ, le Saint-Esprit agit dans l'Église d'une manière encore plus directe, d'une manière encore plus manifeste. Il nous conduit dans toute la vérité, il nous enseigne, il nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Oui, l'Esprit Saint nous encourage, nous conduit dans notre marche au quotidien. Il déverse l'amour de Dieu dans notre cœur et il nous accorde sa paix et sa joie, même au cœur de l'épreuve. Il nous sanctifie, il nous rend capables de vivre une vie chrétienne cohérente. Il nous aide dans notre faiblesse et il intercède pour nous. Il nous garde en Christ, il nous maintient dans la communion avec le Père. Le Saint-Esprit agit. Agit aussi sur le plan communautaire. C'est lui qui nomme les responsables d'Église, acte 20. C'est lui qui dirige les décisions de la communauté, acte 13. Oui, c'est lui aussi qui choisit les serviteurs et qui les place là où il veut, pour l'utilité commune. C'est aussi lui qui donne les dons, les charismes pour chacun, pour l'utilité de l'Église. Le Seigneur ne nous laisse pas donc seuls, ne nous laisse pas orphelins, mais il nous donne son Esprit Saint qui est en nous, parmi nous, pour nous équiper, pour nous conduire, pour nous accompagner et pour nous assurer de sa présence et de sa tendresse. J'aimerais ce matin nous encourager à prendre conscience de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie au cours de cette année, de son œuvre dans notre vie, nous encourager à lui faire confiance pour cette nouvelle année, pour continuer l'œuvre que lui-même a commencée en chacun d'entre nous, mais aussi au sein de notre Église. Je veux aussi nous encourager autant qu'Église à compter sur lui pour être assistés dans les différents services, dans les différents ministères qu'il nous confie ici à l'Église. Je pense bien sûr, nous venons de prier aux moniteurs, aux monitrices des ateliers bibliques. Je pense également à tous ceux qui servent dans d'autres secteurs comme la diaconie, les jeunes adultes parmi les femmes et ainsi de suite. Au témoignage à l'évangélisation, j'aimerais nous encourager à compter sur la présence de l'Esprit du Seigneur, sur l'Esprit du Seigneur pour nous équiper tous, pour être des instruments puissants entre ses mains au cours de cette nouvelle année. Nous avons dit que c'est le Saint-Esprit qui choisit, qui envoie ses serviteurs. J'aimerais aussi nous encourager à rester confiants, sereins, quant aux serviteurs qu'il va nous envoyer, si telle est sa volonté, pour l'avenir, pour l'année prochaine. J'aimerais nous encourager à prier pour que nous discernions vraiment sa volonté et ne pas passer à côté de ses plans pour nous, mais les accueillir et les recevoir avec joie, bonheur et beaucoup de reconnaissance aussi. En plus de la parole, en plus de l'esprit, le Seigneur se sert aussi de l'Église pour guider nos pas, pour nous faire entrer dans ses plans, aussi bien pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie communautaire. Nous avons le privilège de faire partie de la famille de Dieu qui est l'Église. Et en devenant enfant de Dieu, nous devenons aussi le frère, la sœur, des autres enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu sans devenir frères et sœurs des autres enfants de Dieu. Nous formons une grande famille et nous formons un seul corps, tout en étant différents les uns et les autres. Une famille dans laquelle nous sommes invités à recevoir beaucoup de choses et aussi à donner ce que nous pouvons. Une famille dans laquelle nous sommes invités à grandir, nous sommes invités à avancer avec les autres, jamais sans les autres. Une famille dans laquelle petits et grands sont acceptés, petits et grands sont respectés dans leur rythme de croissance, dans leur rythme de développement spirituel, dans leur vie, pour atteindre la stature de Christ. L'Église, la communauté des croyants, est le lieu d'ancrage où nous sommes invités à voir des racines aussi profondes que possible. Des racines non pas pour nous enfermer sur nous-mêmes, mais des racines qui nous permettront de nous ouvrir à notre société, à notre monde, qui a tellement besoin de nous, qui a tellement besoin de notre famille, des enfants de Dieu. Au sein de cette famille spirituelle que nous formons, le Seigneur nous donne de vivre son amour concrètement, dans le soutien mutuel, dans les encouragements mutuels, dans les encouragements que nous recevons des autres pour tenir bon justement lors de l'épreuve, pour résister, pour continuer à marcher et à suivre le chemin que le Seigneur trace devant nous. Le Seigneur se sert de la communauté, se sert de l'Église, des frères et sœurs pour nous guider, pour nous montrer la voie à suivre. Le Seigneur se sert souvent d'un frère, d'une sœur, pour nous donner un conseil qui peut d'un seul coup éclairer complètement notre choix et nous orienter pour voir mieux et aller loin. Combien de fois l'échange avec un frère, une sœur a permis de voir clair, d'apprécier davantage, avec plus de finesse, une situation et d'avancer avec plus d'éléments et donc plus de sécurité. Voilà pourquoi la vie communautaire n'est pas une option dans la vie chrétienne. La vie communautaire, la vie d'église n'est pas une option, mais elle fait partie intégrante de notre foi chrétienne. L'un des dangers auxquels nous devons faire attention dans notre société occidentale est l'individualisme. L'Église n'est pas un rassemblement d'individualistes, mais un rassemblement de frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres pour discerner ensemble la voie de Dieu pour notre vie, non seulement communautaire, mais aussi pour notre vie personnelle. Nous ne pourrons pas vivre notre vie chrétienne seule, solitaire. Nous nous priverions dans ce cas-là d'une ressource capitale que le Seigneur veut utiliser pour guider nos pas, pour guider nos choix, pour nous diriger vers ces verts pâturages, comme un bon berger aime bien le faire pour ses brebis. Certes, la communauté doit faire attention pour ne pas écraser l'individu, il y a la place pour les individus, pour les personnes. Mais je crois très franchement, dans notre monde occidental, le danger ici, ce n'est pas le communautarisme dans notre Église, mais c'est plus l'individualisme. Il est vrai que parfois la communauté peut être, dans d'autres contextes, être un vrai frein et écraser complètement l'individu. Et dans ce cas-là, il faut veiller et se rappeler que le Seigneur Jésus nous a sauvés individuellement, personnellement. La confession de foi est personnelle. Mais cette confession de foi nous introduit dans la famille de Dieu. Elle ne nous laisse pas en dehors de la famille de Dieu. Nous devons faire attention. Le Seigneur utilise l'Église, nos frères et sœurs, pour nous guider, pour nous diriger et nous montrer la voie à suivre. Nous ne nous privons pas de cela. Voilà pourquoi j'aimerais nous laisser cette exhortation de l'Épître aux Hébreux qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais au contraire, exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour du jugement arriver, le jour dernier s'approcher. Ne pas abandonner nos assemblées pour ne pas nous priver de toutes les directives et les orientations de notre Seigneur. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Nous ne devons pas abandonner nos assemblées pour ne pas priver les autres de ce que le Seigneur veut leur donner, veut leur dire au travers de nous. Voilà donc pourquoi il me semble que la vie de l'Église locale est nécessaire, et nécessaire aussi bien pour le discernement personnel que collectif de la volonté de Dieu pour notre vie. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tel est vraiment le désir de notre Dieu qui nous aime tant pour chacun d'entre nous et pour aussi notre Église en tant que communauté. La parole, l'esprit, la communauté sont des instruments, des canaux que Dieu veut utiliser pour nous faire entendre sa voix et guider nos pas. Le Seigneur se sert aussi bien de ses moyens, d'autres moyens aussi, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les circonstances de la vie, le monde qui nous entoure. Mais la parole, l'esprit, la communauté jouent un rôle particulier dans la guidance du peuple de Dieu. Pour cette nouvelle année, nous voulons compter sur la parole de Dieu pour éclairer notre chemin. Nous voulons compter sur l'esprit de Dieu pour ouvrir les yeux de notre intelligence. Nous voulons compter sur la communauté des croyants pour marcher des mêmes pas. Nous avons entre nos mains la parole, en nous l'Esprit, parmi nous l'Église. À nous d'entendre, de recevoir, d'avancer dans le Seigneur. Amen.